Loser magnifique, beau dans la défaite, des adjectifs qui collent à des clubs de ceux qui racontent des histoires et des légendes qui font que les suiveurs étrangers veulent aimer ces clubs, à cheval entre la pitié et l'admiration face à tant de résilience. Dortmund, Rennes, Arsenal dans une moindre mesure, l'exemple du week-end dernier et du scénario dinguement triste du titre en Bundesliga illustre parfaitement cela. Dortmund échoue à un pied du titre face à l'ogre bavarois alors qu'il n'avait que 3 points à prendre face à une équipe qui n'a plus rien à jouer. Pour en rajouter, comme si le scénario était écrit à l'avance, le Bayern se fait égaliser en toute fin de match, redonnant aux noirs et jaunes le titre durant une poignée de minutes. Puis Jamal Musiala, puis les larmes, la résignation, puis Marco Reus et un sentiment d'injustice étouffé dans quelques « c'était sûr ». Dortmund est un club qu'on aime aimer car il ne gagne pas. Il est beau, digne dans la défaite. Mais nous, on n'est pas supporters, on est observateurs. Je vous jure que de le vivre, c'est pas pareil. D'avoir l'impression d'être systématiquement refoulé d'une soirée où tout le monde a déjà été invité. Perdre tout le temps, souvent, sur la dernière marche. Quand on est supporter, on préfère gagner moche. Alors oui, bien sûr, la manière, oui, bien sûr, le fond de jeu, mais je pense que très peu de supporters refuseraient un titre arraché. Un titre dégueulasse reste un titre. Nous aussi, on veut exploser. Nous aussi, on veut crier. Nous aussi, on veut avoir l'impression, un moment, juste un moment, d'être les meilleurs. Je suis né en 1995, supporter du Stade Rennais, de l'équipe de France et des clubs français en compétition européenne. J'ai longtemps cru que la victoire n'était pas pour moi, que je n'y avais pas le droit et que c'était comme ça. Je m'y étais fait. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ça m'a construit. Je vous jure que d'être supporter du Stade Rennais et de l'équipe de France vers son Domenech, ça apprend l'humilité. Et puis j'ai senti le vent tourner. C'est à l'âge adulte que j'ai découvert la victoire. Ces sensations indescriptibles qui vous chauffent la poitrine et font monter les larmes dans la gorge. Et quand on y goûte, on veut plus rien d'autre. On en reveut tout le temps. Les supporters de Dortmund y regoûteront. Mais les commentaires des hipsters de Twitter ne changeront rien à leurs larmes. Ils s'en foutent de perdre en étant beaux. Ils se seraient préférés en affreux vainqueurs. Comme nous tous. Et ceux qui prétendent le contraire sont des hypocrites ou de ceux qui n'ont jamais humé ce parfum délicieux qu'on appelle la victoire. Bonjour à tous, bienvenue pour l'avant-dernière de la saison pour Poteau Carré. Bientôt les vacances d'été, les plages, la bière et les filles et plus de foot putain. Fin de championnat, sevrage obligatoire. On pourra se rattraper en slip sur les matchs de préparation. Allez, bienvenue dans l'avant-dernier épisode de Poteau Carré avec mes deux acolytes qui vont avoir bien du mal à s'occuper durant 2 mois. Déjà, celui pour qui l'intro a dû parler, lui qui a goûté à la plus grande victoire avec un vilain goût trop peu depuis. Comment ça va, Bilal?
Écoute, en pleine forme.
Avec toi, depuis que t'as goûté à 93, t'en veux encore, gros gourmand.
Ah bah putain, j'ai eu ma dose cette année, t'as bien vu, hein.
Ouais, cette année, pour vous, ça devait être dur aussi. Hein. Tout le monde a dit ouais, l'OM, machin, etc. Au final, vous êtes troisième, vous n'aurez pas
aimé. Bah, tu passes à deux doigts du titre, tu te mets à rêver de Coupe de France, et au final, tu as une troisième place et plus de coach prochainement. Voilà.
Ouais, alors que tu aurais préféré être un affreux deuxième.
Presque.
Et avec lui à nos côtés, il ne connaît pas cette sensation parce que lui, lorsqu'un des 248 clubs qu'il supporte perd, il y en a bien un autre qui gagne. L'équivalent d'être un. C'est l'avantage d'être un citoyen du monde, le Zaz du podcast footballistique. Comment ça va, Tom?
Zaz, vraiment Zaz. Aïe, aïe, ça fait mal.
Ah, c'est le côté citoyen du monde.
C'est ça, c'est un peu ça. Écoute, je prie très fort dans une demi-heure, on a la finale de la Ligue Europa. On va évidemment se délecter de peut-être 10 minutes de Dybala et on espérera que ça marchera ce soir.
J'avoue que ça doit être horrible jour, pour toi cette finale. Cette finale, genre deux styles de jeu solides et défensifs, des équipes historiques même pas à la mode, des coachs qui sont dépassés pour toi, c'est horrible.
Ah bah ça va être très moche, ouais.
Bon allez les gars, on commence. Est-ce que vous avez des petites recos cette semaine? Je vous pose la question, mais évidemment que vous en avez.
Ah oui, parce qu'on prépare mieux nos émissions que certaines autres, les Comex et les compagnies, où c'est un peu fait à la va-vite, hein, on le sait tous. Moi j'ai démarré avec Hors-jeu, une petite émission Twitch qui évidemment marche plutôt très bien. Ils sont quand même beaucoup le lundi soir à faire des débriefs du week-end. Mais celui-là, il m'a particulièrement touché récemment. Voilà, moi Jules t'en a fait plein des intros où tu dis que t'es dégoûté du foot et je pense qu'on y est tous passés avec cette saison en rallonge. Mais là, récemment, ils se sont relancés un petit peu avec des très bons invités. On a eu Jean-Charles Sabatier récemment. On a eu, maintenant, actuellement, on a Sofiane qui évidemment est toujours très très bon. Mais surtout, là, on a des mercato idéal. Alors, ça peut te faire chier, ça peut te saouler parce que tu sais que Skriniar, il signera peut-être finalement pas au PSG, mais ils le recommandent quand même. Mais voilà, les invités sont toujours très bons et surtout l'équipe de base est très bonne. Tu as évidemment du Scipion alias Adrien Mathieu, qu'on connaît très bien. Braque, Bruce Granek, évidemment, ça fait des années qu'il est là. Kento, Zdal, Zach Nally, voilà, c'est plein de très très bons. J'ai parlé avec Adrien Mathieu ce matin, qui m'a dit qu'effectivement, il reste deux émissions pour la fin de saison, le 5 et le 12 juin. C'est tous les lundis 18h30 et je suis sûr qu'ils seront là l'année prochaine pour vous accompagner toutes les semaines et vous raconter à quel point Mitoma est le meilleur ailier de Première Ligue.
Ok, cool. Bilal, t'as quoi comme reco, toi?
Ouais, moi je vais vous parler d'une petite enquête, hein, c'est toujours des bons gros formats, mais une enquête de l'équipe Explorer. Ça parle pas de foot, mais de tennis. Ça s'appelle Les Galériens du tennis et en gros, ça raconte le quotidien de ces joueurs justement qui ne sont pas ou plus dans les grands chelems, mais participent à ces fameux challengers ou futurs, les tournois secondaires du tennis. On a pas mal de témoignages, notamment de Lucas Pouille, de Benoît Paire, sur les conditions justement de ces tournois où ils nous racontent un petit peu que bah, typiquement tu peux faire gagner un titre, puis faire une finale et au final tu as gagné 500 balles sur deux semaines. Donc voilà, c'est un peu compliqué de s'en sortir dans ces conditions et surtout, ça amène vers un phénomène qui est quand même assez fréquent dans le tennis, tout ce qui est match truqué. Et finalement, tu te dis que ça découle un peu de ça aussi et tu as des témoignages de comment ça se passe exactement. Donc franchement, encore une super belle enquête. Par contre, je n'ai pas le nom de la personne qui l'a fait, je n'ai pas noté, mais on la mettra forcément en bio de notre épisode, mais vraiment encore un contenu très quali.
Ouais, Avec cette petite quinzaine de Roland, figure-toi que j'ai failli faire la même reco que toi, parce que je suis allé voir cette enquête aussi, et c'est en effet une très bonne enquête. Et moi, du coup, je suis allé sur autre chose parce que je traînais un peu sur le tennis, j'avais envie de m'imprégner de tennis avant de checker Roland Garros. Et du coup, j'ai regardé le doc 1983, l'œuvre d'une vie, Yannick Noah, sur la victoire du français, oui. Enfin du franco-camerounais à Roland Garros. Et très honnêtement, moi, j'y suis allé un peu à reculons parce que j'avoue que Yannick Noah, c'est pas ma tasse de thé. L'enquête dont tu viens de parler est écrite par Quentin Moinet, Bilal.
Ok.
Quentin Moinet sur l'équipe Explore pour les Galériens. Et moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, Yannick Noah. Et en vrai, on s'en fout. Qu'on aime Yannick Noah ou qu'on aime le tennis ou en fait, peu importe. C'est super intéressant parce que ça balaye plein de trucs, que ce soit ce que c'est que le quotidien d'un gamin qui à 14 ans se consacre à un sport, encore plus un gamin déraciné de son pays. À l'époque, il n'y avait pas de portable ni rien. Ce que c'est que la préparation mentale par rapport à une compétition, l'impact que ça a eu en France. Enfin voilà, ça balaye le social, la préparation sportive. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est vraiment très cool. C'est 45 minutes, hein, c'est super rapide. Un petit trajet en métro et c'est fait. Donc voilà, on des recos poteau carré tennistiques aujourd'hui. Heureusement qu'il y a les tomes. Bon les gars, de toute façon on va mettre comme d'hab tous les liens sur nos réseaux sociaux pour ceux qui veulent aller regarder nos petites recos. En attendant, je vous propose qu'on se dirige dans cette perfide Albion et le comeback d'un club qu'on connaît bien sous la houlette d'un coach qu'on connaît bien également. Vincent Kompany et les Clarets sont champions de Championship après avoir roulé sur une ligue atrocement difficile, le tout avec un jeu plutôt chatoyant. Burnley nous a laissé sur une vilaine relégation et un kick and rush passé de mode et revient en PL, des ambitions plein les poches, un jeu léché sous la direction d'un nouveau Baby Pep, ce qui devient la mode en première ligue. Messieurs, avant d'analyser un peu plus en profondeur ce qui se passe dans ce club, je vous propose comme d'hab qu'on revienne un peu historiquement pour comprendre d'où vient le club et sa place dans le football anglais.
Alors, le but, c'est évidemment pas de chier sur un club du nord de l'Angleterre, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose dans cette petite ville de 70 000 habitants, dont 20 000 se délectent du incroyable football tous les week-ends. Mais bah, franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Le club lui-même, sur YouTube, a essayé de faire une vidéo assez longue sur 140 ans d'histoire. Et bien, elle dure 3 minutes. Voilà, ça en dit un peu long sur l'histoire du club.
Tu peux arrêter de parler de la sextape ?
Ouais, c'est un peu ça. Créé en 1882, c'est l'un des fondateurs quand même de la Football League, qui est le championnat professionnel en Angleterre en 1888. En termes de faits notables, tu as une FA Cup en 1914, avant que le football soit un peu comme celui d'aujourd'hui, quoi. Du kick and rush, voilà, il n'est peut-être pas changé en 100 ans. Tu as deux vainqueurs de première div en 1921 et en 1960. Le club souligne quand même les titres effectivement de féminin dans les années 2000 et un peu plus tard. Mais sinon, en gros, c'est ça et une FA Youth Cup en 1968. Franchement, c'est pas énorme. Par contre, du côté un peu plus pas triste parce qu'ils ont réussi à s'en sauver, mais l'un des gros faits notables de ce club, c'est une victoire. Alors, ça n'est pas grand-chose, mais une victoire contre Leyton Orient. C'est en 1987, c'est la dernière journée de championnat. Et en fait, s'ils perdent ce match, ils seront relégués de la Football League et redescendent dans ce que fait Wrexham actuellement, c'est la National League, qui est la première division semi-professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de supporters et beaucoup d'historiciens du club disent que s'il était descendu et sorti du système professionnel anglais, le club aurait tout simplement disparu. Donc, c'est quand même assez
Simplement,
important.
Tom, je te coupe 2 minutes pour que tout le monde comprenne, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. En Angleterre, les 4 premières ligues sont professionnelles. Donc là, on parle d'une descente en 5e ligue,
Ouais, exactement.
cinquième
Donc,
division.
en fait, il disparaît totalement et redescend dans des. C'est pas encore régional en cinquième division, mais franchement, bah, c'est pas professionnel. Ça se professionnalise de plus en plus actuellement. Wrexham.
C'est l'équivalent du national pour nous.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tu as des équipes qui sont plus ou moins professionnelles, mais surtout parce qu'ils ont plus de moyens. La Burnley n'avait pas de moyens, n'avait presque plus rien, et aujourd'hui n'existerait probablement pas. Dans le musée du club, il y a même le ballon qui a touché deux fois les filets dans une victoire 2-1 contre Leyton Orient. Et c'est vachement important. Mais en gros, le club se maintient en première division, surtout dans les années 60-70. Mais en gros, les grosses dates du club, c'est des titres de champion de quatrième division, quoi.
Donc c'est
Donc.
important parce que là on est quand même en train de dire, du coup, pour expliquer à tout le monde que, parce que ça va vite dans le foot, mais mine de rien, en 30 ans, le club était à 2 doigts de disparaître, était en 4e division anglaise et aujourd'hui va remonter en première ligue. Est-ce qu'on peut passer rapidement sur ce qui s'est passé entre 1990 et la période d'un Burnley qu'on connaît un peu mieux?
Bah exactement, bah en fait, tu sautes très rapidement de 20 ans et tu te retrouves en 2009, qui est la première accession à la Première Ligue. Alors évidemment, la Première Ligue, c'est sous son format de 1992, un peu comme la Ligue des Champions dans les années 90, il y a un changement de First Division à Première Ligue. Et donc, c'est la première accession, ils redescendent tout de suite. 2010, on a un coach qu'on commence à connaître un peu mieux, c'est Eddie Howe, qui est aujourd'hui à la tête d'un grand Newcastle qui prend 2 années. Le club en championship et arrive donc bah, Monsieur Brexit, Monsieur Chauve, Monsieur très très roux, c'est Sean Dyche qui a quand même voilà, révolutionné un peu le club à l'aide de buts de Charlie Austin et d'autres grands joueurs dont Bilal va nous pouvoir nous en parler un peu mieux.
Ouais, bah à l'époque, tu vas enclencher Bilal, mais à l'époque, Sean Dyche, il arrive à la suite d'Eddie Howe, et lui, c'est un vrai manager à l'anglaise, il retravaille le club de l'intérieur, et le club connaît, mine de rien, une petite stabilité, ce qui leur était pas arrivé depuis longtemps.
Ouais, bah lui, quand il arrive, déjà, faut quand même te rendre compte, il est adoré par les supporters après son parcours. C'est vraiment un coach qui est représentatif de la ville, que ce soit dans le style de jeu, le kick and rush, défensivement très solide, des longs ballons, etc. Vraiment le foot à l'anglaise. Quand il arrive en 2012, il va faire monter le club une première fois en 2013-2014. Ils vont redescendre encore une fois et ils vont revenir en 2015-2017 jusqu'à l'an dernier. Donc, il va réussir à instaurer une certaine stabilité. Il va même finir à la 7e place
C'est une
lors
vraie
de la
perf,
saison.
faut le dire.
Pardon?
Non, je disais que c'était une vraie perf d'avoir maintenu le club dans une première ligue aussi compétitive pendant 6 ans.
Ouais, clairement. Et donc, il fait même 7e une année. Donc, il les qualifie pour la Coupe d'Europe lors de la saison 2017-2018. Donc, clairement, c'est presque un mini-exploit. Et en plus de ça, en ayant une façon de gérer le club, avec un club qui est très, très peu dépensier. Le plus gros transfert de l'histoire de Burnley, et encore aujourd'hui c'est le cas, il est à 16,9 millions d'euros, ce qui dénote complètement dans la première ligue qu'on connaît. Et lui, il a réussi, avec un style à l'ancienne, à maintenir ce club-là pendant tant d'années. Il a adoré, il a son pub à son nom à côté du stade, le Royal Daesh. Voilà, donc
Non,
c'est
mon rêve.
vraiment une icône de ce club-là.
Je pense qu'il faut quand même noter qu'au-delà de faire venir des joueurs, effectivement, tu vois, tu montes en première ligue, tu fais une forest, tu ramènes 30 joueurs. Lui, avec le club, parce que c'est vraiment ça, le manager à l'anglais, c'est le Sir Alex Ferguson, tu vois, qui gère un peu tout. Lui, il a dit, on va plutôt investir dans le centre de formation et l'académie et le centre d'entraînement pour faire un truc absolument magnifique. Alors évidemment, tous les clubs de première ligue aujourd'hui ont des très très beaux centres d'entraînement. Peut-être pas Luton, on en reviendra plus tard, mais en tout cas, les clubs qui sont actuellement en première ligue ont des très beaux centres d'entraînement. Et lui a décidé de pérenniser le club dans le long terme permettre à des jeunes joueurs d'éclore de la région et d'avoir un truc vraiment magnifique. Donc en fait, ils n'avaient pas d'investissement dans les joueurs, donc ils sont redescendus tout de suite, mais au moins ils avaient un nouveau centre d'entraînement avec cet argent-là qui leur permet de se pérenniser dans le long terme.
Oui, et c'est ce qu'on. Bah, de toute façon, c'est ce qui lui a permis un peu de changer de stratégie aussi, parce qu'au début, c'était vous balancer sur les grands devants, et après, c'est devenu vous balancer sur les grands devants, et si ça marche pas, vous faites la passe à Dwight McNeil et il se démerde. Et ça leur a permis d'avoir deux stratégies au lieu d'une.
Il y a plein de très bons joueurs qui ont éclos là-bas. Il y a du Tarkowski qui est aujourd'hui un peu le dieu vivant en défense à Everton. Tu as du André Gray, Sam Vokes, Ashley Barnes qui va malheureusement quitter le club après 10 ans. McNeil, Ben Mee, Chris Wood, Vergorst évidemment qui a fait la joie de Manchester United cette saison. Nick Pope, Diego Rodriguez, pardon. Et évidemment le grand Maxwell Cornet. Voilà, ça fait partie du style
de club. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés là-bas. Mais non, mais on ne cessera quand même de le répéter. Les clubs qui font du travail de fond, c'est quand même toujours plus efficace que de recruter à tout va. C'est le travail qu'a fait Sundyce. Ça n'a pas marché tout le long parce qu'on, comme on l'a dit, la première ligue est hyper compétitive. On le voit, hein, il y a des clubs comme Everton, Leicester. Il y a 2 ans, je ne sais pas si beaucoup de gens auraient dit qu'ils étaient sur la sellette. On va arriver à la fin du mandat de Sundyce, à cette relégation. Où est-ce qu'il en est le projet Burnley à ce moment-là?
Bah, en gros, tu as LK Capital qui arrive, qui est une société américaine, qui rachète le club à hauteur de 84% en 2021. Et donc, à la tête d'LK Capital, tu as Alan Pace, qui est du coup nommé président de Burnley. Et lui, il a un petit historique dans le foot parce qu'il avait été le président de l'équipe de MLS de Salt Lake City. Et à l'époque, il arrive, c'était en 2007, je crois. C'était une équipe qui, clairement, ne jouait pas les premiers rôles. Et en 2 ans, il leur fait gagner un titre. Et derrière, les années qui ont suivi, il a aussi conseillé d'autres structures dans leurs investissements dans le sport, etc. Ils fondent en 2019 LK Capital avec vraiment cette volonté de racheter un club. Il va s'associer avec quelqu'un qui aujourd'hui s'occupe, qui est le directeur exécutif et qui s'occupe pas mal de qui supervise en gros les opérations football. C'est Mike Smith qui supervise notamment le recrutement, qui lui a un passé dans le football américain. Et eux, donc, ils vont racheter le club et essayer vraiment de recréer du lien avec le personnel et avec les supporters et lancer un nouveau schéma. Et je pense qu'on va enchaîner par la suite sur ça. Il y a la descente et l'idée d'un nouveau projet.
Pour être clair avec tout le monde, ils rachètent le club au moment de la descente ou avant la descente?
Non, ils le rachètent, je crois que c'est 1 an et demi avant.
Ah oui, donc finalement, le 2020, club descend sous ce nouveau pavillon-là. Donc, on peut avoir un sentiment à l'été dernier pour les supporters qui est un peu, putain, on se fait racheter, on descend direct. Quel en est notre projet? Donc, en fait, où est-ce qu'on en est cet été avec LK Capital?
Ah, mais c'est exactement ça. C'est que là, faut bien comprendre un truc. C'est que quand on est à l'été dernier, personne ne mise une piécette sur Burnley. C'est une équipe qui, du coup, est endettée parce qu'ils avaient 65 millions de livres de dette. C'est une équipe qui a plus que 10 joueurs professionnels dans son effectif. Il y a Sundyce qui est l'icône qui s'en va. Et on arrive avec Vincent Kompany qui a du coup, on reviendra dessus, donc qui arrive avec un nouveau projet. Et du coup, en fait, tu pars de là. Alors certes, tu as les parachute payments que permettent la Première Ligue. Donc quand tu descends, bah, tu reçois une manne d'argent pendant 3 ans. Donc c'est lié au droit de TV. Donc ça, c'est assez cool pour les clubs qui descendent. Ils vont toucher 44 millions. Donc ça aide pour aussi se relancer. Certains clubs de Ligue 1 seraient assez contents de les recevoir. Mais du coup, tu repars vraiment de zéro au moment où Vincent Kompany va débarquer.
Ouais, donc Vincent Kompany, il arrive sur une terre brûlée, quoi. On lui dit…
c'est exactement ça.
On lui dit, mec, il te reste 10 joueurs pro, à toi de te démerder avec ça. Et donc, du coup, j'imagine qu'on va revenir un peu sur Vincent Kompany, sur son arrivée. Du coup, j'imagine qu'il a été assez influent sur la construction du groupe. Ça peut être cool pour un coach comme ça aussi, de se dire, voilà, on a de la thune, on te fait confiance, vas-y.
Justement, en fait, avant d'embarquer là-dessus, il n'y a pas tant de thunes que ça, parce qu'avec le rachat, il y a le mot LBO qui est maintenant très connu des supporters lyonnais avec Textor. Il y a une grosse LBO quand même à 65 millions. Donc en fait, une grosse partie. Il faut imaginer les parachute payments, les trucs que tu reçois quand tu descends. C'est ce que tu devais recevoir sur une année. Tu le reçois progressivement sur 3 saisons. Donc tu reçois style 45%, puis 35% et encore la fin, la 3e année. Et en fait, il y a une grosse partie de ça qui est partie dans la LBO tout de suite. Donc,
il y a Gérard Lopez qui demande s'il peut en avoir des parachutes payants.
Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, ils ont juste plus de. Ils se libèrent de 13 joueurs Et t'en as plein d'autres qui arriveront, on en parlera plus tard. Mais voilà, il y a en
dis,
fait.
Excuse-moi, quand tu dis qu'ils se libèrent de 13 joueurs, ils les libèrent de leur contrat, ils ne les vendent pas.
Non, il y a, non, y a des ventes quand même. Il y a comme une, okay. des ventes à hauteur de 70 millions, je pense, mais sur ouais. 13 joueurs, ça ne fait pas tant
c'est
que ça.
Ça. Non.
Notamment Nick Pope qui ramène quand même beaucoup de sous parce qu'il est international anglais. Ouais. Mais en dehors de ça, c'est quand même des cadres, des Tarkowski, du Pope,
ouais, Tarkowski,
du Ben Mee.
Mais lui, typiquement, il part en fin de contrat. Typiquement, Tarkowski, donc
mais
même
voilà,
pas tu
vois,
prends
il y en a certains qui sont en fin de contrat. Mais...
Ben Mee, enfin, t'as des joueurs qui, en plus, ça a été voilà, ils n'ont pas pu récupérer tout l'argent qu'ils souhaitaient.
Non.
Donc lui,
mais
quand il arrive,
salariale,
bah, en fait, oui. Et oui, c'est sûr. Mais du coup, typiquement, quand il va reconstruire,
des mecs qui étaient pour ceux qui suivaient pas forcément la première ligue, c'est des mecs qui étaient des socles de l'équipe depuis quelques années. Et
ouais,
la
clairement.
Preuve, c'est que Ben Mee, il est titulaire à Brentford, ouais. Tarkowski, il est titulaire à Everton.
Et Pope à Newcastle. Voilà,
ouais.
C'est le triangle des Bermudes où le ballon est rentré et tu savais que tu le perdais, quoi.
C'est ça.
Et typiquement,
donc, du coup...
quand Vincent. Pardon, tu veux y aller ou.
Non, je voulais savoir justement, Vincent Kompany, il arrive dans ce contexte-là. Comment se passe le mercato avec Vincent Kompany et Alka Capital cet été?
Bah, en gros, justement, il va déjà en arrivant, il se met assez vite d'accord avec eux, avec une vision. Il va travailler vraiment dans la main avec Mike Smith. Et la vision, c'est acheter des joueurs tous en dessous de 26 ans. Donc, bon, c'est assez cohérent avec le style de Vincent Kompany, qui a envie aussi de modeler des joueurs. Mais il va chercher déjà, il a deux joueurs avec lesquels qu'il avait déjà coaché à Anderlecht. Il y en a un qui est le socle de son équipe, c'est Josh Cullen. Il va le chercher à Anderlecht, alors que lui, il a des offres en Liga et dans d'autres championnats. Donc, c'est quand même une belle prise pour en faire vraiment son socle au milieu pour organiser le jeu. Et l'esprit, c'est de faire des listes de joueurs avec Mike Smith, tous de moins de 26 ans. Et si jamais tu ne peux pas avoir le joueur, bah, en fait, tu vas prendre l'option d'après et, pour faire avancer le projet et toujours payer très peu, mais avec un potentiel de revente intéressant. Donc, ce qui fait qu'ils ont très peu investi, mais ils ont aussi misé sur des prêts. Et je donne aussi l'exemple du deuxième joueur qu'il avait déjà entraîné à Anderlecht, c'est Haroud Bellis, qui a été défenseur central pendant une grosse partie de la saison et qui a été une des grosses satisfactions. Et lui, il a été prêté par City et il était à Anderlecht déjà avec lui. Donc, tu as des joueurs qui le suivent, des jeunes, pour développer ce projet-là à moindre coût, avec justement une partie du remboursement de la dette liée, comme on a parlé tout à l'heure, avec les parachutes payments.
Juste avant qu'on continue sur l'influence de Vincent Kompany sur la construction du projet et du club, est-ce qu'on a un peu des infos de la manière de recrutement? Est-ce que c'est Kompany avec ses affinités, ou est-ce qu'il y a une utilisation de la data, comme on peut le voir à Brentford ou à Toulouse chez nous, ou c'est vraiment, on ne sait pas trop là-dessus, c'est de l'humain?
C'est pas hyper clair que ce soit forcément de la data à la Brentford, tu vois. Après, dans sa première réunion avec les joueurs, Kompany dit qu'il va leur donner plein d'informations. Donc, voilà, la traduction n'est pas parfaite avec l'anglais, mais en gros, il va leur donner plein de data sur les joueurs eux-mêmes. Donc, je pense que si tu es capable d'utiliser la data sur tes propres joueurs, que ce soit leur sprint, etc., je pense que tu es capable d'aller les chercher ailleurs. Après, il y a énormément, effectivement, d'affinités, que c'est des U21 en première ligue, c'est voilà, les joueurs en Belgique, des joueurs avec qui il connaît et des agents après. Je pense qu'on en parlera après de la carrière de Kompany, mais c'est aussi grâce à lui. C'est le personnage
oui.
qui les a
donc,
fait venir.
On peut déjà acter, poser la pierre avant de développer un peu. Je donne la parole tout de suite, Bilal, que la remontée de Burnley est en grande partie liée à Vincent Kompany.
Ouais, et notamment dans le recrutement, parce que il y a aussi un truc, c'est que lui, il fait ses listes, etc. Il sait les besoins qu'il a pour se former le style de jeu qu'il souhaite mettre en place. Il prend des joueurs qu'il connaît, mais en plus de ça, il se déplace. Il va voir directement les joueurs en question, il va voir les matchs lui-même. Donc, on n'est pas non plus sur une structure où tu as 10 000 scouts qui t'envoient des vidéos ou je ne sais pas quoi. Lui, il va directement dans les stades voir les matchs, etc., avoir son feeling. Et derrière, il va appeler les gars pour leur faire comprendre comment ils comptent les utiliser, comment ils comptent les développer et à quoi ils serviront vraiment dans son système.
Ouais, donc c'est marrant, ça me fait penser à un certain chauve qui a commencé à Barcelone.
un peu ça.
C'est encore une autre histoire, mais ça va être marrant, hein, l'an prochain, on va avoir Arteta, Kompany, Guardiola dans le même championnat, c'est rigolo.
C'est excitant, hein, d'une certaine façon
ouais.
aussi.
Je vais pas, tu dis ça parce qu'il est chauve.
Non.
Je vais pas brûler les étapes, on va revenir sur les similitudes, notamment dans le jeu et peut-être la gestion et le coaching humain tout à l'heure. Juste avant, j'aimerais bien, parce que potentiellement il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent, qu'on revienne sur la carrière de Kompany pour rappeler bien à tout le monde que c'est quand même un putain de taulier à la base en tant que joueur.
Ouais, donc c'est un Belge central, voilà, un bon à la dure qui est formé à Anderlecht, qui du coup explique peut-être en partie pourquoi il est retourné là-bas. Il est passé par Hambourg et surtout, voilà, c'est une grande arrivée en grande pompe au début du projet Etihad à City. Il fait partie des grosses premières recrues, mais en fait, on ne le sait pas forcément encore au début. C'est-à-dire que tu as des joueurs avec beaucoup plus d'expérience de Premier League, comme Jordan Lescott, qui est déjà au club plus ou moins quand il arrive. Évidemment, c'est aussi le même club qui a recruté Robinho, donc voilà, tout est possible. Mais il fait partie des cadres en 2012. C'est-à-dire qu'on oublie qu'au-delà d'être. Il s'appelle pas Agüero, il s'appelle pas Dzeko, il s'appelle pas Balotelli, donc c'est pas le nom le plus ronflant sur le terrain. Par contre, c'est lui, capitaine, Superman, super capitaine, voilà. Il marque un but égalisateur contre United qui leur permet d'être plus ou moins proche dans la course au titre à la fin. Et il mène l'équipe vers l'avant. Alors, tu as évidemment d'autres cadres comme Yaya Touré déjà dans cette équipe-là, mais lui, c'est le leader mental, moral dans les vestiaires, à défaut d'avoir une énorme expérience. C'est un super joueur, évidemment.
Pour ceux qui regardent que la Ligue 1 et pas la Première Ligue, pour l'expliquer un peu, vous voyez ce qu'était Thiago Silva au PSG, ce qu'était Compagnie.
C'est un peu ça, exactement ça.
Je tiens à rappeler aussi qu'il met quand même pour moi le titre, quand ils sont au coude à coude là, dans la saison de dingue avec Liverpool, quand il met sa frappe monstrueuse, c'est contre Brighton,
Leicester.
Leicester, ouais. Et qu'il met cette frappe.
Qui lui dit don't shoot.
Donc c'est un mec qui a été important tout le long, c'est vraiment une putain de légende de City. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller voir aussi le documentaire
All or Nothing.
All or Nothing, où on voit beaucoup Compagnie, on comprend le cerveau du mec, on sent que c'est un mec assez intelligent, il est impliqué dans le côté social du club, beaucoup déjà avec les enfants. On sent quand il discute avec lui dans le reportage que c'est un mec qui pensait déjà son après-carrière 3-4 ans avant sa retraite, donc on n'est pas sur une tête de nœud absolue, quoi.
Et surtout qu'en fin de carrière, il passe pas mal de temps blessé, et notamment, il le dit, il passe beaucoup de temps blessé à regarder comment bosse Guardiola, comment bosse Arteta, qui est au club à l'époque, et du coup, il commence déjà à essayer de comprendre la façon de faire, les bons préceptes, et voilà, poser les questions par rapport aux entraînements, par rapport à ce qui a été fait, les changements, les choix tactiques au cours des matchs, et donc déjà, il se préparait effectivement à la suite qu'on lui connaît.
Ah, il était à moitié dans le staff presque de Guardiola à la fin. Et ce qui est drôle, c'est qu'il finit sa carrière à Anderlecht. Je te laisserai rajouter un mot après, Tom. Il finit sa carrière à Anderlecht en tant qu'entraîneur-joueur. Il y a encore que les Belges qui font encore ça. Mais du coup, il finit entraîneur-joueur chez les Mauves, chez nos amis belges.
Je pense qu'il y a quand même à souligner, au-delà de l'immense joueur qui était quand même très physique, etc. Et qui joue magnifiquement. Et c'est un certain caractère. C'est une grosse force mentale, mais aussi une humilité quand même assez rare. À ce niveau-là, voilà, quand lui il s'introduit à ses joueurs dans la première réunion à Burnley, il dit effectivement, des joueurs comme Ashley Barnes qui est dans cette pièce m'a cassé les couilles pendant longtemps. Par contre, je lui mettais des coups de pression et si je jouais, notamment en fin de carrière, les rares matchs que je jouais, je donnais toujours 3000%. Je n'étais jamais le plus gros nom dans l'effectif. Par contre, je savais que moi, je ne faisais jamais un mauvais match si je donnais 2000%. Donc voilà, ça montre un peu le personnage qui en attend autant de ses joueurs. C'est un peu
et
ça
je
aussi.
Je pense que
important.
C'est un. Ça montre aussi dans le mercato qu'a fait Burnley, mais ce qui se passait aussi un peu à Anderlecht, je crois que c'est un mec qui est un être humain vraiment génial. C'est un peu con de dire ça, mais c'est pour ça qu'il a réussi à convaincre aussi facilement des joueurs qu'il a croisés, des jeunes à City, des joueurs d'Anderlecht. J'encourage tout le monde, tu parlais tout à l'heure de Zach Nani, à écouter par exemple le Zach en roue libre avec Samir Nasri, où Samir, il explique clairement qu'il reste pas à Séville parce que Séville n'a pas la thune. Par contre, il va voir son pote à Anderlecht Compagnie parce que c'est un de ses meilleurs potes et qu'il lui fait confiance et tout. Je pense que c'est un mec qui est capable, que tout le monde comprenne, de ramener Samir Nasri à Anderlecht. Donc c'est un mec qui est absolument capable de construire un effectif aussi sur sa sympathie et la confiance qu'il inspire aux gens. Je pense qu'il a un charisme, il a un charisme énorme.
Le mot qui revient souvent, c'est intense. C'est quelqu'un qui vit vraiment, qui a l'air de vraiment vivre à fond tout ce qu'il fait. Il est là avant tout le monde, il est là après tout le monde. Quand il arrive à Burnley, il le dit, je connais pas vraiment bien le championnat. Mais il est là avant tout le monde, il bosse des 14 heures par jour. Et en fait, t'es obligé. Je pense qu'il y a une passion communicative. Et il a aussi cette volonté de faire progresser les gens autour de lui, tout en progressant lui-même. Il a une façon de voir la victoire qui est assez intéressante. Enfin, de voir la victoire comme la défaite qui est assez intéressante. C'est clair que je pense que tu vas déjà, en plus d'aller pour le tacticien, je pense que tu vas aussi pour le gagnant et pour l'homme que tu as en face de toi.
C'est ce que j'allais dire, on va aller, Tom, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, mais vu qu'on était déjà assez long sur la personnalité, sur la carrière du bonhomme, etc., peut-être aller sur ce qu'il apporte footballistiquement aussi à cette équipe-là, parce que voilà, c'est pas que, parce que moi je suis un mec très sympa, mais j'entraîne aucun club, je veux dire, aussi derrière, beaucoup de boulot. Oui, en plus, c'est même pas vrai, je suis même pas sympa. Il y a aussi beaucoup de boulot, de connaissances footballistiques, parce que Burnley, ça a joué cette année.
Ouais, clairement, c'est en fait c'est le revirement total l'été dernier. C'est-à-dire
Et pas dans
qu'on
le championnat le plus joueur, je le précise.
Non, non, vraiment pas. Alors moi, c'est un championnat que j'adore parce que il est complètement fou. T'as 24 équipes, ça joue jusqu'à la fin. Et j'en parlerai un peu des playoffs à la fin de l'émission, mais c'est pas forcément là où tu vois, voilà, Pep Guardiola, il surviendrait jamais en championship parce qu'en fait, tu joues tous les 3 jours et c'est pas les déplacements en VIP à Séville. C'est les déplacements à Huddersfield, à Luton Town et dans des stades de merde le mardi soir à 18h et
Eh
c'est
ben.
chiant quoi. Donc lui il a réussi à se dire bah tu sais quoi, on va retirer tout ce qu'on fait avant. Et encore une fois je souligne à nouveau la vidéo qui dure franchement c'est un quart d'heure, c'est rapide, d'introduction à ces joueurs. Il dit franchement il n'y a pas tout à jeter dans ce que vous avez fait avant, par contre la ligne défensive elle va avancer très clairement, c'est-à-dire qu'on va aller, et c'est même pas le mec qui fait le plus de pression dans le championnat, loin de là. Mais par contre, il récupère quand même assez vite le ballon. Mais c'est à la Pep. C'est-à-dire que c'est beaucoup de jeu derrière. Le gardien a été recruté à City parce qu'il sait jouer au pied. C'est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe. Ça joue très lentement vers l'avant. C'est pas chiant à regarder, loin de là. Mais ils réfléchissent à 2 fois avant de faire une passe.
Mais c'est intéressant ce que tu dis et j'encourage aussi tout le monde à aller voir cette vidéo que j'ai vue parce qu'en fait ça montre un peu le style de coaching de Kompany où il dit voilà, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien et je suis prêt à être flexible sur certains trucs. En revanche, il y a tac tac tac, c'est des troncs que j'ai et ça bougera pas donc vous vous adaptez ou vous serez sur le banc. C'est un
Ouais,
petit peu le
exactement.
discours, c'est que c'est un mec qui sait s'adapter mais qui a aussi des principes de jeu donc en fait c'est comme tous les coachs modernes qu'on voit aujourd'hui.
Exactement. Et en fait, là, très simplement, les supporters le disent tout de suite. C'est-à-dire que si un joueur ne donne pas 2000% sur le terrain, l'effectif est assez large pour qu'il soit remplacé tout de suite. Lui, dès son premier match contre Huddersfield, il passe à 56% de possession. Un truc qu'on n'a jamais vu au club depuis 10 ans, qui était en dessous des 40% en première ligue.
Il n'était pas au
La
courant, mais
saison,
on est
la
quand
dernière saison en première ligue, il a 39% de possession de balle, ouais.
Ouais, voilà. Et même en championship, avant, il était en dessous de 50. Donc, c'est un changement total. C'est la meilleure équipe du championnat, meilleure attaque du championnat, meilleure défense, l'une des meilleures possessions, qui est plutôt autour de 63 à 65. Donc, t'imagines un peu le truc en championship. Eux, ils n'ont jamais vu ça. T'as
C'est pour
des
ça que
latéraux.
tu fais bien de rappeler ces stats-là, Tom. Comme ça, on prévient tous ceux qui n'ont pas regardé le championship. L'équipe de Burnley que vous allez voir l'an prochain n'a plus rien à voir avec celle qui est descendue il y a un
Non,
an.
ça c'est
On
sûr.
a
Alors,
regardé.
à voir quel effectif il récupère en montant, mais en gros, les principes vont rester là. Par contre, il y a la petite gêne qui est quand même à souligner, c'est qu'ils surperforment massivement leur XG il va peut-être avoir une cataclysme en arrivant en Premier League contre des défenses un peu plus renforcées. Mais c'est sûr que c'est l'une des meilleures équipes à avoir cette année et il est ravi de continuer l'aventure avec un nouveau contrat de 5 ans dans les années à venir, malgré
Vas-y.
les approches qu'on a eues, quoi.
Ouais,
Bilal,
mais
tu m'as dit un
en
truc.
réalité, c'est oui, voilà, il le dit aussi assez bien, c'est que lui, il s'engage toujours sur le long terme. Il décrit, à un moment, j'ai vu dans une interview qu'il décrivait son style comme de la possession avec impact. Donc, je trouve que
C'est ça.
ça résume bien la chose. C'est voilà cette volonté. Bah, c'est Barnes qui justement est passé de Daesh à Kompany et qui disait, bah avant, je devais
Mouiller la
rester
nuque, hein, lui.
totalement. Pardon?
C'est mouiller la nuque.
Ouais, voilà, il s'est mouillé la nuque clairement. Et du coup, lui, typiquement, il disait que bah, en pointe, habituellement, il devait rester haut et attendre. Et qu'en fait, Kompany lui demandait bah, en fait, t'as perdu le ballon, bam, pendant 10 secondes contre-pressing. Derrière, tu vas te replacer, mais parfois, tu vas changer de poste avec ton pote, etc. Donc, au début, ça a pu être compliqué de mettre ça en place, mais les rôles de chacun ont complètement évolué. Et typiquement, bon, on est obligé d'en parler, il y a quand même beaucoup de Guardiola dans tout ça, mais il se défend quand même. Alors, il y a beaucoup de Guardiola, notamment pour un truc, c'est qu'il y a aussi la relance qu'effectue Burnley cette année où ils font comme City avec Stones et là c'est Roberts qui du coup vient justement au milieu comme le fait Stones avec City donc il y a des beaux parallèles mais lui se défend quand même d'un truc par rapport à un truc qui est assez vrai c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de tous ses coachs comme tous les coachs en général typiquement de la culture défensive de Mancini et c'est une équipe par exemple quand il avait son équipe à Anderlecht c'est une équipe qui prend en 2 saisons malgré un style de jeu qui était quand même assez intéressant assez enfin plutôt offensif ils prennent que 70 buts en 68 matchs sur 2 saisons du coup. Donc tu vois, il y a ce truc de la possession, la récupération haute, etc., mais sans les risques exacerbés.
De toute façon, c'est ça qui est intéressant avec tous ces coachs très modernes et plutôt intelligents qui réfléchissent au jeu, c'est qu'on va avoir des espèces d'hybrides, 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 parce que Kompany, ça va être un hybride de Mancini, Guardiola, de son expérience, et ça va être un peu ça, parce que même pareil, on parle d'Arteta, Arteta, c'est un peu Guardiola, mais Arteta, il y a du Wenger aussi. Donc c'est intéressant d'avoir tous ces espèces de fils
Xabi
d'eux,
Alonso, alors?
Oh bah Xabi Alonso, putain, lui, là, c'est un enfant de mec talentueux. On va s'arrêter un peu sur le style de jeu. On en reparlera vite fait là quand on va parler un petit peu de l'effectif rapidement, parce que ça va pas donner. Enfin voilà, on va pas s'attarder sur l'effectif pour de bonnes raisons, c'est que ça va pas parler à grand monde et que deuxièmement, comme on l'a dit, il y a pas mal de joueurs prêtés, etc. Donc on les retrouvera pas forcément l'an prochain à Burnley, mais peut-être qu'on peut parler d'un ou deux noms qu'on perçait l'écran. Vous en avez déjà parlé un peu tout à l'heure au milieu notamment.
Ouais, bah moi j'ai, y a Josh Cullen. Moi j'aime bien le truc en fait des joueurs qui suivent leur coach. Ça montre bien l'aura du coach en question. Et quand c'est un poste aussi important que celui qu'a Josh Cullen dans l'équipe, celui de vraiment de faire le tempo, d'organiser l'équipe, et même surtout qu'à Anderlecht, lui parfois descendait en défense pour faire monter les deux latéraux. Donc il a vraiment assimilé toute la façon de jouer de compagnie ça a été vraiment le métronome. Et donc du coup, moi, c'est de lui dont je voulais parler, même s'il y a d'autres exemples. Il y a des gars qui ont crevé l'écran. Je pense que Tom parlera d'autres, mais. Typiquement, on peut parler de Anas Zarouri qui était là à la Coupe du Monde avec le Maroc, qui lui pareil a fait une grosse saison en tant qu'ailier percutant, pardon. Et donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui l'a fait progresser.
Quand tu as parlé de Josh Cullen, ça me permet de faire une petite dédicace à Tom qui a dû adorer cette nouvelle où j'ai vu que Branko van den Boomen jouera à l'Ajax la saison prochaine.
Ouais.
Triste. Franchement.
Ah, tu sens ça triste?
Ah, triste?
Non, parce que moi je pensais qu'en fait c'est le joueur néerlandais par excellence et j'aurais adoré l'avoir à l'OL, mais autrement
oui.
C'est ouais. Évidemment un super signature pour l'Ajax qui doit se relancer l'année prochaine.
Oui, et pour lui c'est cool quand on voit d'où il vient, le bien passage. Enfin, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais ça m'a voilà. Fait marrer.
Bah, justement, je vais vous parler d'un autre néerlandais, hein, parce que faut quand même le faire, c'est Ian Madson qui est prêté de Chelsea, qui est un latéral ultra offensif, et justement avec Zarouri à gauche, ça marche vachement bien ensemble. Moi, j'ai vu l'Anderlecht de Company l'année dernière. Ce qui est important pour lui, c'est les latéraux offensifs. Donc, Angel Gomez a signé à City depuis. Et les ailiers un peu faux-follés. Et bah, Zarouri, Benson, accompagné de Madsen, bah, ça donne un sort de cocktail très offensif, accompagné de Brownhill et Jay Rodriguez devant. Franchement, ça donne du style. Et on a parlé des joueurs de City qui sont prêtés, qui aiment bien jouer au ballon derrière. Ça aide forcément, mais ouais. Voilà, comme tu as dit, c'est pas des joueurs ultra connus. Par contre, une fois qu'ils retournent à leur club respectif, je pense à Nathan Tella qui aurait vachement aidé Southampton cette année. Et bah écoute, il était en prêt et bah il s'est fait une belle vie en Championship.
Oui, et je pense que Madsen, on le verra peut-être pas à Chelsea, mais on le verra en première ligue très rapidement.
Oui, clairement, ouais. Un Fulham ou au-dessus, ouais.
Ou un mec comme Brownhill, c'est un très bon joueur de foot aussi, et je pense qu'il sera là l'an prochain. Biel, tu veux rajouter un petit truc?
Juste un truc, c'est il y a aussi une stat qui est vraiment sympa, je trouve, et qui montre bien, c'est que là, on parle des individualités. T'as 19 buteurs différents sur la saison. Donc, tu vois, ça, c'est une stat qui montre tout. C'est que tu as investi tout le monde. C'est que au final, tu as développé des gars. C'est que tu n'avais pas de moyens au début de saison et que tu as réussi à transformer des jeunes en personnes qui croient dans ton projet et qui font avancer le club avec des stats que tu as évoquées tout à l'heure, Tom, en termes de meilleure attaque, meilleure défense, etc. Possession, nombre de passes réussies. Enfin, en fait, c'est une réussite complète avec pas grand-chose et ça donne beaucoup d'espoir. Et ce que je vous disais en off, c'est que je ne pensais pas être si excité à l'idée d'évoquer le cas de Burnley il y a de cela même 9 mois.
Hein. Vas-y, Tom, pour conclure.
Bah, je vais conclure juste la stat des 19 buteurs. Ça s'aligne un petit peu avec la séparation des tâches. En fait, au milieu, tu as 7 ou 8 joueurs qui ont plus de 3 tacles par match. C'est des joueurs aussi offensifs. C'est une dizaine de joueurs qui ont plus de 1 ou 2 actions décisives ou créations d'occasions décisives par match. Donc, tu n'es pas sur un cas de figure à la Bruno Fernandes qui crée vraiment tout pour l'équipe. Là, c'est vraiment tout le monde qui met la main à la pâte et qui fait le pressing ensemble et qui attaque ensemble. Donc, c'est... Je ne veux pas te dire, je ne veux pas comparer ça au Total Football, mais franchement, c'est tous ensemble en bloc haut et ça part dans tous les sens.
Oui, et c'est la preuve, sans dire que évidemment que les individualités ils sont pour quelque chose, mais c'est la preuve qu'un système est solide, qu'un système tourne.
J'ai de l'espoir pour l'année prochaine.
Thierry Henry sur Prime en parlait à propos du lance de Francaise en disant que tu peux plus facilement t'inclure et t'introduire dans un système qui tourne que de te reposer sur des individualités.
Je pense que ça donnera de l'espoir pour l'année prochaine si tu as plein de joueurs qui changent, s'ils arrivent à bien recruter derrière. En fait, c'est le système qui primera. L'exemple de Lens est très bon. Quand tu perds j'ai oublié le latéral, le français.
Jonathan Clauss.
Qui est parti, voilà. Jonathan Clauss qui est parti à l'OM. Il était très, très bien remplacé. Et en fait, le système n'a pas changé. Et il arrive à toujours aussi bien performer, si ce n'est meilleur. Donc ça donne l'espoir
Oui,
à Company.
et ce qui est dingue, c'est que Jonathan Clauss, son remplaçant, s'est blessé aussi et le système a continué à tourner. Donc c'est la
Exactement.
preuve que la machine est bien huilée. Les gars, juste pour conclure, on a l'habitude de le faire. Là, c'est un peu pourri parce que c'est la fin de saison, ça sert à rien de se projeter. Donc ça va plus être un pronostic qu'une vraie analyse, étant donné qu'on n'a même pas leur effectif l'an prochain. Mais si vous devez vous mouiller, etc., vous voyez Burnley se maintenir l'an prochain?
Moi, j'ai envie vraiment d'y croire, honnêtement, pour plusieurs raisons. C'est la façon de gérer qu'a eu Company avec peu de moyens et aussi comment il travaille avec les dirigeants. Je me dis qu'il a, il a ce truc d'attirer. En fait, je pense que c'est un projet qui va attirer des joueurs déjà de base et qui, du coup, va faire que des profils plus jeunes et qui, vraiment talentueux, qui ont envie de se développer, vont en fait venir avec plaisir à Burnley. Et du coup. Il y a aussi le parcours en coupe où ils ont éliminé Bournemouth, ils ont éliminé Leicester. En fait, c'est des éléments qui prouvent qu'ils sont quasiment prêts, même s'il y a une gifle face à City, mais qui ne se serait pas fait gifler face à City. Donc, je trouve qu'il y a des éléments tangibles qui montrent que cette équipe, même si elle va être amenée à beaucoup changer, déjà les gars qui étaient en prêt, je pense qu'à tout moment, ils vont réussir à les conserver. Et derrière, ils ont l'intelligence pour bien recruter et pas tomber dans les méfaits que peuvent avoir certains clubs de Première Ligue parfois. Donc moi, j'y crois quand même pas mal à se maintenir. Et à peut-être rêver du ventre mou pour une première année, ce serait pas mal.
Tom, même avis ?
Surtout que je les vois plus se maintenir que le Sheffield United de Heckenbottom ou encore moins celui de Luton, qui va avoir beaucoup de mal financièrement avec les rénovations du stade. Donc à choisir, dans les trois qui montent, ce sera clairement plutôt Burnley. Après, un milieu de tableau avec encore des clubs comme Fulham qui marchent très très bien et un Chelsea qui va revenir. Je pense que le milieu de tableau, ce sera plutôt autour de Palace entre la 13e et la 17e place. Quoi.
Ouais, probablement.
Donc voilà, ça va être par là. Et tu auras forcément Everton encore dans la merde l'année prochaine. Donc je pense que pas trop s'inquiéter là-dessus. Il va avoir des places à prendre en première
du
Ligue
coup,
Everton.
Sur le côté moins pronostique, et là, c'est pas au suiveur de football que je vais parler, mais bien au comptable ou à l'ex-comptable. toi qui t'es pas mal renseigné sur le sujet, en revanche, Alka Capital, le nouveau propriétaire, c'est quoi leur projet? Ils veulent rester à Burnley ou alors ils ont envie de revendre assez vite pour faire de la thune? Est-ce que tu as l'info ou pas du tout?
Non, alors franchement, j'ai pas trouvé exactement d'infos. Moi, de ce que je vois et de la façon dont ils ont géré les supporters, je crois que c'était Alan Pace, du coup, qui est le président de Burnley, qui se balade souvent autour du stade, etc. Tu sais, ça fait. Enfin, c'est pas non plus
ouais.
Anodin. Ça fait un truc où le gars il vient s'imprégner de l'ambiance, etc. Moi je me dis que c'est pas forcément des moves que tu fais de façon.
Oui, et ils sont impliqués.
Ils sont désintéressés. Donc moi je les vois bien rester
opérationnels. Ils sont
voilà.
impliqués.
Et après, je pense qu'il faut parler de Gigi Watt. Je pense que Tom, toi t'es plus informé sur le sujet.
Ouais, et du coup, JJ Watt c'est un ancien joueur défensif de foot américain qui a fait un peu suivi la lignée de Ryan Reynolds et possiblement. De The Rock, hein, qui apparemment veut investir dans le foot anglais. Et il a décidé que Burnley, c'était la ville de rêve où il fallait investir son argent. Il a trouvé un peuple vraiment sympa. Et donc, il s'est rapproché de Alka avec sa femme, Kayla aussi. Et ils se sont très bien entendus avec les propriétaires. Pas au point de soulever le trophée avec eux. Il trouvait qu'il ne méritait pas en investissant qu'au Burnley. Mais ça apporte un investissement mineur. Et donc, forcément, un peu d'argent pour investir l'année prochaine, donc ça donne forcément de l'espoir pour se maintenir.
Ouais, donc le projet, autant sur le terrain qu'à l'extérieur, attire du monde. Bon, écoutez les gars, merci beaucoup. De toute façon, on peut que se projeter sur des choses qu'on maîtrise vraiment pas du tout. On sera attentif cet été quand on sera chier et qu'il y aura plus de foot à regarder le mercato de Burnley et voir ce qu'ils peuvent ramener. Très hâte de voir à nouveau du coup la grosse tête de Vincent sur le banc de Première Ligue. En attendant, les gars, on y va sur vos chroniques. On commence par toi, Bilal. Tu vas nous parler d'une belle histoire chez nos amis et voisins allemands.
Et oui, mon cher Jules, j'ai voulu parler aujourd'hui d'une des très belles histoires du week-end dernier. Un week-end dans lequel de nombreux championnats jouaient leur dernière journée et tous n'ont pas eu la réussite du Red Star qui s'est vu refuser son accès en Ligue 2 pour deux petits points. On a eu l'occasion de voir des scénarios fous comme celui de Luton Town et son petit stade de 10 000 places, le Kenny, qui verra donc jouer l'an prochain en son sein les plus grands joueurs de Première Ligue. Et ça, c'est des histoires qu'on aime. Mais celle qui a particulièrement attiré mon attention, c'est la montée d'un club dont je ne connaissais absolument pas l'existence. Le club d'Edenheim, une petite ville de 50 000 habitants à la frontière de la Bavière et qui accède pour la première fois de son histoire à la Bundesliga. Globalement, en termes de palmarès, dans son histoire, Heidenheim, ce n'est pas incroyable. L'équipe ayant réalisé au mieux 2 quarts de finale de Coupe d'Allemagne. Mais cette histoire est en passe de devenir bien plus intéressante grâce à l'apport d'un homme, un certain Frank Schmidt. Vous l'aurez deviné, il est allemand. Non, ce n'est pas un sombre cousin de l'entraîneur de Benfica. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il est originaire d'Heidenheim justement, et qu'après une carrière honnête de joueur de football professionnel qu'il aura vu évoluer en seconde division notamment, il finit sa carrière dans sa ville de naissance, en 5e division allemande, avant d'en devenir, en 2007, l'entraîneur principal. Et cela fait plus de 15 ans que ça dure. Une longévité qui dénote forcément de nos jours et qui fait de lui un des coachs les plus anciennement à la tête du même club en Europe. En même temps, l'histoire avait plutôt bien commencé car dès sa première année en tant que coach principal, il réussit à faire monter le club en 4e division. Pareil, la saison suivante, avec une montée en 3e division. Il faudra cependant être un peu plus patient avant d'atteindre la 2e division en 2014, qu'il n'a plus quitté jusqu'à ce fameux 28 mai 2023. Et quelle façon de passer à l'étage supérieur ? Celui qui, lorsqu'il était joueur, avait participé à un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe d'Allemagne en 94-95 en éliminant le Grand Bayern de Munich 1-0 avec son équipe de 3e division, se devait de nous réserver un scénario à part. Partant avec un point d'avance sur le 3e Hambourg avant le début de la dernière journée, le club d'Heidenheim savait la victoire quasi obligatoire. C'est ainsi qu'ils eurent la bonne idée d'être menés 2-0 à la 56e minute de jeu de leur match face à Ratisbonne et même 2-1 au début des arrêts de jeu. Pendant ce temps-là, Hambourg, qui avait réalisé sa part du job en remportant son dernier match, voyait même ses supporters commencer à envahir le terrain et à fêter la montée en Bundesliga. Mais c'était sans compter sur un scénario de fou furieux et des buts d'Heidenheim à la 93e et à la 97e minute de jeu pour finalement réussir à l'emporter. Et même enfin, permettre à la salle des trophées d'ouvrir ses portes à Heidenheim avec un titre de champion de Bundesliga 2. En tout cas, Frank Schmidt, qui n'avait jamais réussi à jouer en Bundesliga en tant que joueur, il sera bien l'an prochain en tant que coach et on pourra voir à la Voice Arena, son petit stade de 15 000 places, évoluer les plus grands joueurs de Bundesliga en son sein.
Nickel, merci Bilal. Toi Tom, tu vas nous faire une chronique qui est un vrai podcast en elle-même, un petit peu fourre-tout je crois, mais on reste au Royaume d'Angleterre comme notre gros sujet, avec au menu des belles histoires et à nouveau notre cher Ivan Toney.
Cette saison de football a été très longue, avec le mondial débutant avec de nombreux championnats en juillet. En tous les échelons, nous avons eu des belles histoires, que ce soit effectivement la dernière journée lunaire en national ou celle de Bundesliga Zwei. Mais je vais vous parler des petites histoires qui ont rythmé le football anglais cette saison et particulièrement la semaine dernière. On démarre avec Wrexham, le club gallois qui est propriété de Ryan Reynolds et Rob McAnally et qui remonte enfin en Football League après une saison à plus de 100 points. Une saison dingue qu'ils ont vu se battre jusqu'à la fin avec Notts County, vaincu grâce à un arrêt décisif de Ben Foster sur penalty. En League 2, la finale de playoff a vu affronter d'un côté le coach de Carlisle, Paul Simpson, battre son fils, préparateur physique Jake Simpson, de Stockport County. L'aventure de Sheffield Wednesday pour la montée en Championship a pu se terminer bien plus tôt que prévu. Battu 4-0 en demi-finale de playoff par Peterborough, ils sont revenus à 4-4 au retour à Hillsborough avant de gagner au penalty. Ils ont confirmé leur place en deuxième division avec une victoire contre Barnsley lundi. Enfin, l'histoire dont tout le monde va vous parler, dont 11e art, c'est celle de Luton Town. En moins de 10 ans, ils sont montés de la National League jusqu'à confirmer leur place en Premier League ce week-end. Nathan Jones a fait une partie de l'aventure, et même Panzo également, depuis le début. Ayant déjà l'un des plus petits budgets de Championship, on ne s'attendait certainement pas à les voir arriver en PL, particulièrement avec ce petit stade dont nous parlait Bilal, si atypique, qui nous rappelle les années 80. Une belle histoire qui accompagne les Brighton, Newcastle et Forest en Premier League dans la catégorie histoire à retenir de cette saison. Cependant, la fin de saison a aussi été marquée par une histoire plus terne. Et non, je ne vous parle pas de la terrible équipe de Tottenham. Je vais vous parler de la suspension d'Ivan Toney et à cause de son activité sur le site de Paris Sportif. Annoncée le mois dernier, la suspension de l'attaquant de Brentford va l'empêcher de jouer des matchs jusqu'à mi-janvier 2024, en plus de l'empêcher de s'entraîner avec ses coéquipiers jusqu'à septembre prochain. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au buteur qui a découvert la sélection en mars dernier ? Entre février 2017 et janvier 2021, la fédération anglaise considère que Toney a commis 232 infractions des règles sur les paris sportifs. Alors joueur de Newcastle, il est prêté à Scunthorpe, Wigan, avant de signer à Peterborough et surtout à Brentford en 2020. Durant ces années, il a souvent parié sur le fait qu'il allait marquer ou son club allait gagner. Rien de choquant, en dehors du fait qu'il parie aussi contre Newcastle, le club qui n'a jamais vraiment laissé une chance de briller. Alors âgé de 21 ans, Toney tombe sur l'addiction et n'arrête pas de parier. Malheureusement pour lui, peut-être en manque de connaissance des règles, les joueurs n'ont pas le droit de parier, ni même d'aider les familles ou les amis. Kieran Trippier a été suspendu lors de son arrivée à l'Atletico, après avoir dit de ses amis de parier sur son transfert. Joey Barton est suspendu en fin de carrière pour un grand nombre d'infractions également. tout comme le scandale qui avait généré les frères Karabatic il y a quelques années. L'investigation dans le cas d'Ivan Toney a duré plusieurs mois et il est capable aujourd'hui de reconnaître ses torts, même sur le fait qu'il ait menti à la FA quand lui demandait s'il pariait. Le problème est ailleurs cependant. D'ailleurs, comme l'explique Steve Kroelker, ancien défenseur de Liverpool et addict aussi au pari, il y a très peu de communication sur les règles autour de les paris sportifs. Bien qu'il y ait des progrès là-dessus avec des associations créées et la fédération qui organise des ateliers, très peu de joueurs connaissent les règles. Ensuite, le suivi des joueurs et des addictions est déplorable. Les joueurs ne veulent pas en parler et de peur que le coach ne les fasse plus jouer, et quand les coéquipiers le savent, bah, le club n'apporte pas vraiment beaucoup d'aide. De fait, la sanction d'empêcher Ivan Toney de jouer au sport qui le fait vivre ne peut que le pousser vers des états mentaux d'autant plus graves. Enfin, le sport est rempli de publicité sur ces mêmes paris sportifs. L'article d'Enzo Leani rapporte qu'un tiers des jeunes Français entre 15 et 17 ans ont déjà misé de l'argent, alors que les pubs se multiplient avant, pendant et après les matchs. C'est impossible de les éviter. Vos émissions préférées sur YouTube sont sponsorisées par ces sites. Les divisions professionnelles inférieures de la Première Ligue sont sponsorisées par Skybet, alors que 8 des 20 clubs de l'élite ont pour sponsor principal un site de paris sportif. Seul motif d'espoir est que la Première Ligue annonce qu'en 2026, ces sponsors seront interdits sur le devant des maillots, seulement sur les bords de pelouse ou des manches. Bon, franchement, pas une grande avancée, quoi. Bien qu'en Espagne, on ait implémenté ce type de règlement en 2020, les sites tels que socios.com continuent de pousser les supporters et les joueurs à parier. Avec Messi comme effigie, c'est difficile de pas y penser. On sait que le football est dans une relation compliquée avec ces sites. Les instances veulent d'un côté les éradiquer, comme on a pu le voir à l'Atalanta et leur bannissement des télévisions françaises, mais de l'autre, leur sport est de plus en plus financé par ces sites. Lorsque Ivan Toney brandit les trophées de meilleur joueur du mois, ou qu'il joue le week-end avec Hollywood Bet sur le devant de son maillot, il est évident qu'il aurait pu avoir une possibilité de tomber dans l'addiction. Je ne peux que vous conseiller de vous renseigner sur le sujet, que ce soit des articles de Jay Harris sur The Athletic, ou bien de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, comme joueur info service au 09 74 75 13 13.
Merci beaucoup pour ce Tom, pour cette chronique riche. Il nous souhaite plus qu'à vous souhaiter à tous un bon réveillon pour fêter l'année 2024. Ça fait donc 6 mois qu'on est en ligne avec Tom. Non, en vrai, c'était très allez, intéressant. Vas-y. Parce que tu savais que c'était l'avant-dernière de la saison, oui, et t'as mis une chronique en une.
C'est ça.
Bon, en tout cas, merci les gars. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette presque dernière. On va bientôt se quitter, mais pour mieux se retrouver, évidemment. Et on se voit dans 15 jours avec un bel épisode pour clôturer cette saison de dingue. Donc allez, hydratez-vous, lisez du foot, écoutez-nous et portez-vous bien.